7h25, on va faire le point, évidemment, avec la santé publique de Montréal sur la rentrée scolaire, sur les profils. On le voit ce matin dans la presse, les gens qui ont été les plus touchés par cette première vague du virus. La directrice régionale de la santé publique de Montréal est avec nous, Dr Mylène Drouin. Dr Drouin, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, j'aimerais vous entendre ce matin sur les profils que vous avez, en tout cas à la santé publique, là, pu établir qui sont les gens qui ont été les plus touchés. On comprend là, rapidement avec les tableaux que ce sont les gens qui habitent des quartiers pauvres, des gens qui viennent de minorités visibles, puis des gens qui travaillent là, dans des emplois souvent pas très payants, mais qui sont plus à risque que d'autres, notamment dans le milieu de la santé.
Exactement. La première vague, et puis c'est un peu la série de portraits qu'on a lancé là, depuis quelques temps là, sur les inégalités sociales et la pandémie. C'était un petit peu pour refléter qu'est-ce qui s'est passé durant la première vague. Évidemment, les premiers touchés, c'était les voyageurs, donc des quartiers plus favorisés, mais rapidement, on a vu les gens qui étaient touchés au cours de la première vague étaient des gens qui provenaient de quartiers plus défavorisés. On ne collige pas l'information systématiquement là, sur l'origine ethnique, le statut migratoire, mais avec les données qu'on avait, on a quand même pu faire là, des analyses écologiques pour nous montrer que rapidement, les taux étaient beaucoup plus importants chez les minorités visibles, chez les populations noires, et aussi les femmes avaient été plus touchées autant en termes de nombre de cas que aussi pour les impacts collatéraux là, liés à la détresse, conciliation travail-famille, perte d'emploi liée à la pandémie. Donc, c'est un peu des portraits qui nous démontrent là, qu'on a encore à se soucier de ces inégalités, puis qu'on n'est évidemment pas tous égaux là, face à la pandémie.
Bon, là, on voit des cas qui apparaissent. Je pense à l'avis qui a été donné hier pour des gens qui ont fait des cours de danse ou des activités de danse latine à l'intérieur, extérieur. Il y a un propriétaire de restaurant là, qui, semble-t-il, a des problèmes. Il y a des restaurants qui ont dû fermer. Il y avait un cas de... Actuellement, là, est-ce que c'est en milieu de travail, c'est en restauration, ce sont des parties? Qu'est-ce qui apparaît le plus souvent là, à l'écran radar quand on regarde la provenance des cas de COVID?
Bien, actuellement, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on est vraiment dans une bonne situation à Montréal avec une très faible circulation du virus au niveau populationnel. Ça fait 4 semaines là, que nos indicateurs sont à la baisse, donc c'est très positif. Donc, on a plein de petites éclosions en milieu de travail. T'sais, je dirais cette semaine, là, on en gère à peu près une trentaine, mais c'est à la baisse. Là, dans les dernières semaines, on était donc, et c'est beaucoup dans des milieux de travail avec un petit nombre d'employés, donc souvent moins de 20 employés. On a toutes les éclosions dans les bars, ça s'est estompé. Les mesures sont bien respectées. On a eu évidemment pendant l'été des camps de jour, des petites équipes sportives, beaucoup des fêtes, des mariages. Et là, évidemment, tout ce qui tourne autour là, d'événements touchant la danse, là, c'est la danse latine, mais toutes les danses sont quand même à risque là, parce qu'évidemment, ça implique des contacts plus étroits. Mais moi, je dirais la bonne nouvelle, c'est que c'est rarement des éclosions qui génèrent un grand nombre de cas. Donc, on les contrôle quand même assez bien. Pour la danse, la raison pourquoi on est sorti dans les médias, c'est qu'on n'arrivait pas à retracer les contacts. Et pour nous, on savait que de par le type d'événement, les mesures qui n'étaient pas toujours en place, on pense qu'il y a d'autres cas qui nécessiteraient là, d'être dépistés pour qu'on puisse intervenir. On pense probablement que l'éclosion est plus que les 3 cas qui nous ont été déclarés.
OK. Est-ce que des faux positifs, il y en a beaucoup?
Bien, les faux positifs, c'est notre test, il est très sensible et très spécifique aussi. Et quand on est dans des contextes de faible prévalence au niveau populationnel, c'est là que la valeur qu'on appelle prédictive de notre test et nous amène plus de faux positifs. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que lorsqu'on déploie des stratégies de dépistage, on essaie de bien cibler les groupes pour lesquels on pense. On n'est pas là à dépister tout le monde, peu importe. Il y a eu un grand mouvement, il faut dépister tout le monde tout le temps. Pour nous, c'est pas la stratégie. Il faut aller dans des endroits où il y a des gens à risque qui ont été en contact, par exemple là, les gens qui ont participé à des événements de danse, parce qu'à ce moment-là, on réduit les chances de faux positifs. Quand on a un faux positif, ben, ça a malheureusement des conséquences parce qu'on demande aux gens de s'isoler. Et si c'est pas nécessaire, évidemment, si on peut l'éviter, c'est toujours mieux, évidemment, parce que ça a des conséquences sur la personne, sur sa famille, sur ses contacts.
Mmh.
site. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est très vigilant dans les endroits et les groupes pour lesquels on recommande le dépistage.
OK. On va parler des écoles maintenant. Il y a une lettre ouverte signée par des professionnels de la santé là, qui est publiée. Et bon, on voit les grandes lignes dans deux gazettes ce matin. Essentiellement, ils trouvent que les mesures sont pas assez strictes. On voudrait, par exemple, en tout cas chez les signataires, qui sont parents d'enfants d'âge scolaire, là, qu'on impose le masque aux enfants, même dans les classes, qu'il y ait un mètre de distance entre les enfants, qu'il y ait donc moins d'enfants par classe. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande de dire là, à la santé publique qu'il faudrait tourner ça d'un cran puis d'être plus sévère?
Bien, je pense que les mesures qui sont proposées sont des mesures qui ont été analysées là, pour prendre les décisions qui ont été prises actuellement là, entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Il y avait un groupe d'experts qui regardait un peu qu'est-ce qu'on devait mettre, mais dans la société, on a les deux pans. On a des parents qui nous disent qu'on devrait ne pas mettre le masque à personne puis laisser nos enfants vivre. Puis on a des gens qui sont plus proches du risque zéro qu'on appelle. Donc, on veut évidemment réduire à zéro le risque. C'est toute cette question d'équilibre entre comment on réduit la transmission, mais comment on maintient, dans le fond, un contexte scolaire qui est viable, parce que ça va durer encore plusieurs mois, qui permet aux jeunes de socialiser, qui fait en sorte qu'ils vont avoir une motivation, puis qu'ils vont pas, surtout nos adolescents, là, excusez l'expression, mais péter les plombs après 2-3 mois, puis pas vouloir aller à l'école parce qu'ils ont un masque toute la journée. Et surtout pour faire en sorte qu'ils vont pas créer des événements de socialisation à l'extérieur, où là, on a plus de difficultés à contrôler le risque. Actuellement, donc, c'est sûr que si on était dans un risque zéro absolu, on mettrait toutes ces mesures-là en place, mais on juge que dans un contexte scolaire, dans notre capacité à appliquer tout ça puis à rendre l'école agréable et propre propice au développement de l'enfant, c'est probablement c'était le meilleur équilibre qu'on a trouvé. Et nous, évidemment, on travaille beaucoup sur comment réagir rapidement face à un cas, une éclosion, et on s'y attend. Là. Il va y en avoir des cas, là, c'est sûr.
Mais explique-moi une chose, que j'essaie de comprendre ça. Là. Vous me dites, on se prépare très bien. Maintenant, à partir de quels symptômes on va tester l'enfant? C'est-à-dire que les enfants, là, on le sait, il peut avoir une otite, il peut avoir un rhume, il va tousser, il va moucher. À partir de quoi, là, on dit, oups, lui, on va le tester?
Cette discussion-là n'est pas tout à fait finalisé. Il y a encore mais on regarde évidemment là la liste des symptômes, puis il y a certains symptômes qui sont tellement fréquents que si on les met comme premier symptôme pour retirer un enfant et le faire tester, les gens vont se faire, il y a des enfants qui vont se faire tester continuellement, puis ils vont être toujours exclus. Donc on est en train, et l'algorithme devrait sortir là, cette semaine. Il va y avoir aussi, probablement, ils vont annoncer, le ministère de l'Éducation avec le ministère de la Santé, un questionnaire qui va permettre en ligne aux parents de remplir un questionnaire pour voir s'il doit aller faire tester son enfant, mais on va aussi inclure des questions sur le contexte à risque qui fera en sorte qu'un enfant aurait des chances d'être positif. Et nous, je vais vous donner l'exemple des services de garde éducatifs qui sont quand même ouverts depuis le début juin. On a eu quelques cas sporadiques et on a testé des enfants, on a vraiment été à fond dans les investigations de plus de 1000 enfants et on n'a pas eu de cas positifs. Donc, on voit clairement qu'il y a des petits nez qui coulent. Souvent, c'est soit un autre virus. Donc, c'est pour ça qu'on va être très vigilants dans l'algorithme pour essayer d'éviter d'envoyer trop de monde se faire tester et avec toutes les répercussions sur la famille et évidemment aussi sur l'apprentissage de l'enfant et de la classe.
Vous l'avez dit tantôt, les résultats actuels, là, les nouvelles sont bonnes. Moins d'hospitalisation, bref, et c'est toujours la référence. De tester, c'est très bien, mais c'est de voir quelle est la pression sur le système de santé. Il y a combien de gens à l'hôpital, combien de gens sont aux soins intensifs. Là, c'est le beau, il fait beau, c'est-à-dire les gens sont à l'extérieur très bien. Quand va arriver le moment où l'automne va prendre la place, puis que là, il y aura moins d'activités peut-être un peu extérieures, que les gens vont être un peu plus à l'intérieur, est-ce que c'est cette période-là qui est la plus inquiétante pour vous?
Clairement, c'est un facteur de risque supplémentaire, là, puis parce que on le sait, là, si ce qu'on fait à l'extérieur, évidemment, le virus circule moins, puis une ventilation naturelle qui fait en sorte que le risque de transmission est beaucoup moindre. Donc, c'est sûr qu'on est déjà en train de regarder avec certains partenaires, dont la ville, comment on va faire en sorte de maintenir le plus longtemps possible des activités extérieures pour, je pense qu'il va falloir qu'on apprivoise un petit peu le froid, mais pour réduire ces risques-là et éviter éviter qu'il y ait des foules, évidemment, dans les bars, dans des fêtes de sous-sol, etc. Mais clairement, oui, c'est un enjeu, puis c'est un des risques qui peut exacerber là, une transmission communautaire. Là.
OK. Mais ma question va être encore plus précise, parce qu'on parle beaucoup de la deuxième vague, là, puis on regarde ailleurs, en Europe, bon... Il y a d'autres cas qui s'ajoutent. Là, j'ai vu l'Italie, la France, entre autres. Mais en même temps, l'Italie, ils disent qu'il n'est pas question de revenir au confinement qu'on a connu. Avez-vous l'impression qu'on pourrait intervenir là, de façon très ciblée, mais à la lumière de ce qu'on voit puis de ce que l'on sait, de tout fermer, là, c'est pas une option?
C'est certainement pas l'option qui est mise sur la table et le ministère de la Santé est actuellement, il va probablement présenter là un plan, dans le fond une logique de reconfinement advenant une transmission communautaire plus élevée, plus soutenue et avec des niveaux d'intervention. Et oui, vous avez tout à fait raison, on va y aller beaucoup plus vers une approche très ciblée, vers des milieux plus à risque qui peuvent nous aider, dans le fond, à réduire cette transmission communautaire sans paralyser l'économie et la vie de l'ensemble de la société. Là. Donc oui, ça va être vraiment l'approche. Puis évidemment, le reconfinement total, je ne connais pas les plans là, de reconfinement des autres pays, mais il y a certains pays qui ont été rapidement au reconfinement. Ce n'est pas l'approche qui est préconisée jusqu'à présent là, dans ce qu'on est en train de travailler pour l'automne.
Dernière question. Quand on a vu que la Food and Drug a approuvé donc ce traitement avec du plasma de patients qui avaient déjà eu la COVID, il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit peut-être, là, mais c'est un peu rapide. Quand le président Trump dit on va avoir un vaccin pour l'élection, d'ici l'élection, comme professionnel de la santé, là, puis vous connaissez ça mieux que moi, là, est-ce qu'on n'est pas un peu vite en affaires et que pour être réaliste, on parle davantage du début de 2021 plutôt que la fin 2020?
Tout à fait. Je pense que c'est sûr qu'on commence déjà à réfléchir là, à des stratégies de vaccination un peu comme on l'avait fait dans H1N1. Mais clairement, là, on projette ça davantage là, pour début 2021 de l'année 21, là, peut-être même le printemps. Là. Donc, on a encore plusieurs mois, puis c'est clair que cet automne, on est beaucoup plus dans une perspective où il faut apprendre à vivre avec le virus, une certaine transmission communautaire, parce qu'on n'est pas non plus comme la Nouvelle-Zélande ou avec un seul cas ou quelques cas, on est vraiment dans une approche très agressive. Ici, il y a quand même une certaine circulation avec une approche beaucoup plus d'éteindre des feux liés à des éclosions. Donc, je pense qu'on a collectivement à apprendre à vivre avec ce virus-là pour encore plusieurs mois.
Est-ce que vous prévoyez vacciner plus de gens cette année contre la grippe?
Oui, on pense que le vaccin, puis ça fait partie des choses qu'on prépare pour l'automne, mais oui, on pense que le vaccin va probablement être un petit peu plus populaire que pour les années précédentes. Et c'est un peu ce qu'on... C'est, évidemment, la saison là, de vaccination est déjà en train de se planifier là, pour novembre prochain.
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Drouin. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Dr. Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de la santé publique de Montréal.